Chali m'était conté. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Eh bien, Jean-Marc, nous en étions restés à cette aventure des émaux de Bals retrouvés dans la mairie de Fontaine-Chaly. Ces émaux de Bals qui étaient dans la chapelle et qu'on a retrouvés en partie et grâce à un orage qui avait détruit la toiture de la mairie. Et à la faveur de cet accident de météorologie, eh bien, on a retrouvé ces émaux. Et puis ces émaux, quand même, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils sont devenus depuis. Comment est-ce que est-ce qu'ils sont restés là-haut dans la mairie ou est-ce que maintenant ils sont visibles?
Alors, je vais essayer de répondre à ta question. La première, bien sûr, la première idée, c'est de les livrer à l'œil du public. Mais, un premier problème que, personnellement, je n'avais pas prévu, c'est que l'église de Fontaine-Chaly, qui est une église relativement récente, qui date du 19e, grande aventure que l'église de Fontaine-Chaly, mais je n'ai pas le temps de vous en parler, belle aventure, assez, parfois assez tragique. Et donc cette église, on va l'utiliser, mais non plus la contre-façade, mais la façade. Donc on va accrocher les émaux sur la façade, afin qu'ils soient visibles par tous. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et nous avons pris évidemment le conseil de personnes averties. Mais aussi, nous étions quand même relativement sereins parce que ces émaux sur l'Avre, rappelez-vous, on l'a déjà vu, ce sont des émaux qui tiennent bien et qui résistent aux injures du temps. Sauf, encore une fois, au choc imprévu. Donc, on est prêt, l'équipe est prête. On a nettoyé beaucoup de soin les émaux. On a cherché des indications parce que les émaux sont démontés. Alors, comment étaient-ils sur la façade de la chapelle Sainte-Marie de Chaly? On n'en sait rien. On a trouvé des numéros qui vont de 1 à 7. Mais on ne sait pas si c'est un positionnement ou simplement un numéro qui correspond à un numéro de la facture. Au moment où on les fait, j'ai fait le 1, le 2, le 3, tu le mets là, etc. On n'en sait strictement rien. Puis en plus, d'autres n'ont pas de numéro du tout. Donc on s'est dit, on va pas continuer une recherche inutile. Et surtout, on va faire autre chose de ces émaux. Ceux qui sont à l'intérieur, pour l'instant, ben on les laisse. Pour des tas de raisons, qui sont aussi des raisons budgétaires, que vous pouvez comprendre. Le retable qui est magnifique, hein, vous savez, j'en ai parlé, ce long retable qui correspond à l'hôtel de Chaly, il fait plus de 2 mètres de long. Hein. Avec, je répète, une précision dans l'enlumineur, Paul Bals a composé une scène tout à fait étonnante. Je n'ai pas l'occasion de rentrer dans les détails. Une petite surprise quand même, il y a quelque temps, il y a un Dijonais qui me dit ben, « J'ai acheté le retable de Fontaine-Chaly ». Il m'envoie un courriel.
Ah bon ?
Je dis « Bigre, c'est bizarre quand même, parce que moi je le connais, il est en lave sur Emma, il est toujours dans l'église ». Non, non, eh bien, grâce à lui, parce que vous savez, les visiteurs de Chaly ont du talent, il faut les écouter, on apprend aussi beaucoup de choses de la part des visiteurs. De la même façon, les amateurs d'art ont aussi du talent et continuent à faire des recherches sur l'emplette qu'ils viennent de faire dans une salle de vente. Eh bien, tout simplement, Paul Bals en a fait une affaire commerciale. C'est-à-dire, il s'est mis à faire des peintures à l'huile en reprenant le modèle du retable de Chaly.
D'accord.
Et voilà donc ce qui a été l'objet d'une vente à Dijon assez récemment. Bah, c'est toujours intéressant, ça nous explique un petit peu que faut aussi vivre, hein, quelque part, et qu'un peintre vit en vendant ses œuvres. Cette parenthèse étant fermée, je reviens sur la question qui nous a tous agités, comment faire pour montrer ces émaux à tout le monde? Et l'obstacle est arrivé, alors là, en pleine figure, c'est que l'église de Fontaine-Chaly est beaucoup, beaucoup plus petite que la chapelle Sainte-Marie de Chaly. On pourrait mettre l'église de Fontaine-Chaly dans la chapelle Sainte-Marie. C'est-à-dire, il n'était pas question de refaire la rosace sur la façade. C'est trop petit. Donc, l'équipe, et j'insiste sur l'équipe, on ne fait rien tout seul, c'est vrai. On ne fait rien sans passion, c'est vrai. mais on a bénéficié aussi, les planètes étaient alignées, comme on dit, de personnes à la fois intéressées, compétentes, assidues. Je ne parle pas du réalisateur qui a permis de faire le film, évidemment, de notre aventure. En tous les cas, grâce à l'équipe, on a travaillé. L'architecte a travaillé sur la façade de l'église. Il nous a montré comment le nombre d'or a été utilisé pour cette façade. Son dessin est tout à fait pertinent. Et il a aussi proposé des installations sur la façade. Ce coup-ci, des émaux qu'on a trouvés dans la mairie, ceux qui étaient cachés. Et les autres, donc les premiers qu'on a découverts par hasard là aussi, on les laisse à leur place pour l'instant. Donc ces émaux, qu'en faire ? On savait évidemment qu'ils étaient réalisés pour la chapelle Sainte-Marie. Oui. Donc on s'est dit, on ne peut pas mettre les émaux comme ça au hasard. Hein, on a aussi un discours à avoir. Donc il faut écrire une histoire, et cette histoire, on va la raconter avec les émaux qui sont à notre disposition. Alors, l'église elle-même, l'église de Fontaine-Chaly, elle a une dédicace, c'est Saint-Saturnin, ou Saint-Sernin, c'est la même chose. Je n'ai pas dit que ce n'est pas inintéressant, d'ailleurs, parce que Saint-Saturnin, après une recherche assez rapide, me suis rendu compte que c'était une dédicace qui souvent correspondait à des villages installés dans des vignes. Ouais. Probablement, donc, une relation entre les deux. Je reviens sur l'église. Et à l'origine, bien sûr, c'est Sainte-Marie qui a inspiré, évidemment, Bals, avec une technique complètement raphaélique. Et on a décidé de raconter cette histoire. Donc, on disposait déjà d'éléments qui étaient en place. Une croix tout en haut, un globe tout en bas, un globe terrestre, en quelque sorte, et l'élévation qui va nous permettre, par la suite, évidemment, de raconter une histoire et de nous élever nous-mêmes. C'est une assomption. C'est une assomption, je veux dire par là, qu'il s'agit de l'assomption de la Vierge, qui monte, il ne s'agit pas d'une ascension. Hein. Il y a une différence entre les deux. Christ monte, évidemment, par l'énergie divine. La Vierge, elle, monte grâce au Christ.
Au Christ, oui, c'est ça. Hein.
Et il y a des peintures où on voit le Christ qui couronne sa mère, hein, le couronnement de la Vierge, et c'est le Christ qui tient la couronne. Donc, on a gardé l'idée qui a guidé Bals dans la facture de ses émaux, donc Sainte-Marie, et on le sait puisqu'on a pu traduire des phylactères, si j'avais le temps je pourrais donner plusieurs exemples qui sont tirés des litanies de la Vierge, etc. Et puis en plus ça correspond à une période, la deuxième partie du 19e, où on a ce qu'on appelle le culte hyperduli, pardon. Ça c'est pour faire savant. Hein. Non, hyperduli ça veut dire simplement le culte de la Sainte Vierge, entre autres, voilà. Ça a commencé avec Louis XIII, ça va continuer par la suite. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc on va raconter une histoire, et cette histoire, elle va être relativement simple. Tout ce qui est près du sol va concerner les éléments terrestres. Donc on va trouver les saints qui sont liés à des corporations, Sainte-Barbe, etc. Et puis petit à petit, on va s'élever pour terminer par le couronnement de la Vierge. Avec les anges, qui sont les messagers, c'est même ce que ça veut dire en grec, hein, oui. Qui sont les messagers et qui vont nous conduire petit à petit vers le monde céleste qui se terminera par la croix, qui somme la façade de l'église Sainte-Marie. On n'était qu'au début de nos difficultés. Hein. Il fallait, rien n'est symétrique en plus dans l'œuvre de Bals par rapport à un axe vertical. Bals a travaillé sur un cercle, lui. Donc, l'architecte a été tout à fait nécessaire là, pour nous proposer différents dessins, différents emplacements. Et puis, par la suite, évidemment, nous mettre en contact avec des gens qui sont spécialisés dans la restauration des monuments historiques. Il ne fallait pas coller ces plaques émaillées sur le mur. Après, on aura des tas de difficultés qui sont liées aux coulures, aux scellements, etc. Donc, il y a un système d'accroche assez perfectionné qui permet de donner de l'air, en quelque sorte, entre les éléments émaillés et le mur. Et ça s'est fait, évidemment, avec des entreprises qui sont habituées à intervenir dans la restauration du patrimoine. Hein.
Ce qui veut dire qu'on trouve donc des émaux en façade de l'église de Fontaine-Chaly.
Merci, André. Effectivement, j'ai le sourire en disant ça.
Oui.
C'est fait. C'est-à-dire que si vous voulez vous promener, moi je vous le conseille, hein, venez donc à Fontaine-Chaly, C'est un village rue, vous n'allez pas vous perdre. Hein. Quand vous êtes arrivé au bout, vous faites demi-tour et vous revenez. Ou presque. Et donc, sur votre gauche, vous allez trouver donc, la petite place qui est mignonne comme tout. Il y a un petit parking en contrebas. Et là, vous allez voir les émaux de balle tels qu'ils ont été disposés dans le discours qu'on a inventé quand même pour donner une cohérence à la disposition des émaux dans l'espace. Et si vous êtes un petit peu plus curieux, vous pouvez pousser la porte, pénétrer dans la cour entre la mairie et la bibliothèque, à gauche et à droite. Vous verrez qu'en bas à gauche, on a descendu un élément, un trilobe, en lave émaillée avec un ange, copie, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais c'est une copie des anges de Raphaël qu'on voit dans une peinture de Raphaël que lui avait concédé Pérugin. Enfin, bon, je ne veux pas vous noyer dans cette histoire de l'art, mais on a mis à portée de vue,
oui,
pour que les gens, parce que les autres sont accrochés, on a mis à portée de vue un des éléments, et vous aurez aussi un QR code. Donc, en scannant le QR code, vous voyez, on est quand même moderne, hein, en scannant le QR code, vous allez pouvoir avoir accès au film que j'évoquais la dernière fois.
Alors, le film, on peut le trouver sur vidéo...
Vimeo, pardon.
Ah, Vimeo.
J'ai mal articulé. V-I-M-E-O.
J'ai un petit peu de peine moi-même à articuler aujourd'hui. Voilà. C'est un point ou un tiret entre les
non,
deux?
Non, dans un moteur de recherche, vous notez simplement Vimeo.
Emo de Balz.
Emo Balz. Voilà.
D'accord.
Et vous allez tomber sur ça, hein, sur ce petit film qui, j'espère, aura le bonheur de vous distraire. Après cet épisode 19e, et je te remercie André de m'avoir permis d'en parler avec bonheur, je l'ai toujours, et je rencontre toujours des membres de cette équipe avec le même plaisir, bien sûr. On voudrait avoir d'autres projets, mais là aussi peut-être intéressant c'est pour les auditeurs, c'est qu'on est tous capables dans notre village d'avoir une action patrimoniale en quelque sorte. Il n'est pas nécessaire de tous sortir de l'école du Louvre. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Oui,
mais je veux dire, il faut réunir des gens qui ont une espèce de passion pour la conservation du patrimoine, qui soit artistique, qui soit industriel. Nous, à Chaly, on a sauvé la centrale hydroélectrique avec le même bonheur qu'on a pu sauver une peinture du 18e, etc. Pour me promener souvent dans le Valois, je sais qu'il y a dans tous les villages des monuments au sens des lieux de mémoire. Monuments, mémoire, c'est la même famille. Des monuments qu'il est nécessaire de sauver. Et on ne fait bien les choses qu'avec passion et en étudiant, bien sûr, hein, en se renseignant auprès de gens qui sont parfois mieux autorisés que nous pourrions l'être.
Oui, on peut toujours se faire accompagner par Jean-Marc Vasseur, par exemple.
Ah, non, pas surtout. Alors là,
ou Nicolas Bilot, par exemple.
Surtout,
aussi.
Pas surtout. Et ma compétence est limitée. Je me garderai bien de donner des conseils, surtout dans des domaines que je ne maîtrise pas. Ouais. Voilà.
Oui. Modeste.
Non, mais c'est un vrai questionnement en tous les cas. Mais la meilleure des connaissances ne vaut pas grand-chose si on n'a pas la passion. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie de sauver de cette sculpture-là qui est perchée tout au coin de l'église et qui, un beau jour, peut-être, va être dérobée,
oui.
Hein, parce qu'il y a aussi ce problème que nous connaissons. Voilà pourquoi nos églises sont fermées à clé. C'est regrettable, mais on peut le comprendre, évidemment. Donc, et puis le patrimoine ne cesse de s'élargir. Ce qu'on a connu il y a 50 ans est de l'ordre quasiment du patrimoine. Ça dépend de l'intérêt qu'on lui porte.
Oui.
Hein, c'est pas simplement... Et puis, il y a des modes. Il y a des moments, il y a des siècles où on conserve tel aspect du patrimoine, d'autres on s'en moque. Vous savez, l'église de Chaly, l'église abbatiale de Chaly, elle a été déconstruite. Moi, j'aime pas trop le terme démoli. Parce que dans démolir, il y a une espèce de hargne, de fièvre, de destruction. Elle a été déconstruite comme beaucoup de monuments.
Oui.
Puisque nous terminons cette émission sur le patrimoine, je prends un exemple peut-être que vous connaissez, c'est celui d'Ermenonville. Ermenonville, c'est Rousseau, nous sommes d'accord.
Oui.
Donc, dans le parc méridional d'Ermenonville, il y a le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau. Le cénotaphe, c'est un tombeau qui est vide, comme vous le savez, puisque la dépouille de Jean-Jacques Rousseau a été conduite au Panthéon en 1794. Mais un peu plus tard, donc dans la deuxième partie du 19e, cette partie qui nous intéresse avec Balz, Ernest de Girardin, qui est le descendant du marquis de Girardin qui avait accueilli Rousseau pour les 6 dernières semaines de sa vie, le comte Ernest de Girardin, député, décide de fermer complètement son domaine. Mmh. Alors c'est complètement, évidemment, le contraire qu'avait souhaité son aïeul, hein, le René de Girardin. Et pour fermer ce domaine, il est embêté parce qu'il y a des choses du domaine public, il y a un lavoir. Ah, oh, ben ça fait rien, je le ferme, puis j'en fais construire un autre, c'est celui qu'on connaît maintenant. Enfin bref. Et puis il y a surtout un pavillon un peu particulier, parce qu'à l'étage de ce pavillon, c'est là qu'habitait Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que ça lui pose problème? Pas trop. Donc, que fait-il? Eh bien, il fait des appels d'offres, comme on pourrait le faire de nos jours, non pas pour construire, mais pour détruire. Qui veut détruire le pavillon? Non, il l'appelle pas Rousseau, hein, le pavillon. Et c'est un maçon de la chapelle en Serval qui va l'emporter. Il va l'emporter, c'est-à-dire qu'il va payer pour pouvoir démolir. Vous voyez? Il paye pour pouvoir, j'insiste, il paye pour pouvoir démolir. Donc la démolition a lieu, mais comme c'est pas un maçon stupide, il se dit, mais c'est le pavillon Rousseau. Et il se met à vendre les volets de Rousseau, le dessus de cheminée de Rousseau, l'appui de fenêtre de Rousseau, pour une somme tout à fait intéressante. Imaginez Ernest de Girardin.
Oui.
il se gratte le crâne, il se dit, mais j'ai vraiment loupé une occasion assez extraordinaire de faire fortune. Et il traîne le maçon en justice, plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'on connaît l'histoire. Hein, c'est grâce à ces procès, très souvent, qu'on connaît un peu mieux, évidemment, les événements qui se sont déroulés. Donc, vous voyez, à cette époque, on n'a pas une volonté de conservation du patrimoine. À cette époque, on paye pour démolir. Et bien, de la même façon, de nombreuses églises, après 1789, à partir de cette date où tous les biens ecclésiastiques deviennent des biens nationaux, les églises ne sont plus consacrées, deviennent des bâtiments comme les autres. Et donc, on peut éventuellement les démolir, entre guillemets, et de vendre pierre à pierre. Oui et non. Il y a beaucoup de maisons de notre environnement autour de Chaly, donc, qui gardent encore les pierres de l'église. Hein. Il y a aussi le canal de dérivation du moulin où on trouve des pierres de l'église. Donc même à l'intérieur du site même, on peut utiliser ces pierres. Cela dit, puisque je parle de cette altération du bâti, l'église que nous connaissons tous, hein, enfin les ruines, que nous apercevons de la Nationale 330, eh bien on ne sait pas trop comment ça s'est passé. On sait qu'en 1795, elle était encore intacte, ou presque. Ah. Et qu'en 1826, on a un premier tableau qui nous la montre dans l'état actuel.
Ouais.
Je pose la question, pourquoi on s'est arrêté?
Oui.
C'est-à-dire, on a commencé à démolir l'église, on a vendu les pierres, je veux bien, on les a utilisées, tout ça. Oui, d'accord. Le cloître, il était déjà bien entamé par la météo. Et chose assez intéressante, on va démonter la charpente du cloître, c'est du chêne. Et ce chêne, on va l'enfoncer dans la boue pour pouvoir construire un moulin au-dessus. Un peu comme à Venise, si vous voulez. Oui. Hein, on va enfoncer des pieux de bois dans la vase pour pouvoir construire un radier sur lequel on installera le moulin. Donc, rien ne nous dit qu'on s'est arrêté pour des raisons économiques. Est-ce que, tout simplement, on n'a pas voulu construire une belle orgnine romantique? On a un bel exemple ici, dans notre département, l'abbaye d'Ourscan.
D'Ourscan,
hein, où on assiste à une reconstruction de fabriques romantiques. Oui. Donc, je suis incapable de répondre à cette question, bien sûr. Tout ça pour parler de la façon dont on considère le patrimoine et revenir sur cet engagement qu'on devrait tous plus ou moins avoir de défendre celui qui est notre voisin. Ça peut être le puits qui est menacé par une rue, ça, ou simplement par la météo. Il n'y a pas qu'une volonté de destruction des hommes. Hein. Voilà, c'est peut-être... la fin de la fable de cette aventure Balde. J'aurai pas le temps, évidemment, de revenir très longtemps sur le Moyen-Âge, parce que là, maintenant, chers auditeurs, vous allez devoir faire le grand écart. Oui. On était au 19e, on vient de passer au 21e, en évoquant la conservation du patrimoine et l'évolution des modes de conservation du patrimoine. On va repartir, bien sûr, à la Renaissance. Alors, rappelez-vous, la Renaissance pour nous à Chély, c'est surtout...
Hippolyte d'Este.
Alors Hippolyte d'Este, il a été obligé de repartir en Italie. Il a construit ses merveilleux jardins hydrauliques à la villa d'Este et à Tivoli. Et il va mourir à une date tout à fait particulière pour nous, en 1572. Mm-hmm. Ben, c'est aussi la Saint-Barthélemy.
Oui.
Un événement majeur, évidemment, dans l'affrontement entre ce qu'on appellera les Huguenots et les Ligueurs. Et un an avant... L'abbaye de Chély a été donnée en commande. Hein, vous souvenez, la commande, c'est le roi de France qui donne à un de ses proches, ou pas d'ailleurs, une abbaye. Et cet abbé en commande va pouvoir bénéficier d'une grande partie des subsides de l'abbaye. Eh bien, selon la bonne tradition du népotisme, ça vient de neveu. Rappelez-vous qu'Hippolyte, il était le neveu d'un autre cardinal qui était son oncle. Et bien maintenant, c'est le neveu d'Hippolyte, qui s'appelle Esté, lui aussi, Aloysius, en latin, Louis.
Oui, en français.
Louis en français. C'est Louis d'Este qui se retrouve donc à la tête de l'abbaye de Chély. 1571, 1572, on ne sait pas trop. En tous les cas, il y a des textes qui nous sont restés, conservés par les archives de Modène. Il y a un document là-bas, Modène, c'est... Vous savez, c'est Ferrari, c'est vrai, mais c'est surtout pas loin de Ferrare, et c'est là où sont conservées en général les archives de Ferrare. Et donc, dans les archives de Modène, on conserve un document signé de Catherine de Médicis, contresigné d'un secrétaire des finances qui s'appelle Isaac Chantreau. Et je vous en donne lecture. « Aujourd'hui, 18e jour de mai, l'an 1171, donc Hippolyte est toujours vivant, hein, la reine-mère du roi étant à Gaillon, un château tout à fait intéressant que je vous recommande évidemment de visiter, désirant qu'advenant vacation de l'abbaye de Chély au diocèse de Senlis par le trépas de Monseigneur le cardinal de Ferrare, autrement dit, elle le tue avant qu'il meure, à présent paisible possesseur d'Issel, c'est un texte qui prépare la suite tout simplement, hein. Le roi nomme et présente à notre très saint père, Monseigneur Louis Cardinal de Ferrare, pour être pourvu de la dite abbaye. Sa Majesté a dès à présent accordé au du Seigneur Cardinal d'Este la dite abbaye de Chély, et en tant que besoin est ou serait, le nomme et présente dès ce aujourd'hui au roi, suivant le pouvoir à elle, par le dit Seigneur, donné de lui présenter et nommer à tous et à chacun les bénéfices étant au-dedans des terres dont elle jouit, etc., etc., etc. Je vous dispense évidemment de la suite de ce texte qui est assez complexe, dans la langue évidemment de cette période. Donc, en témoignage de quoi, évidemment, Sa Majesté a demandé à son secrétaire d'expédier le brevet donc à Louis d'Este. Alors, Louis d'Este, donc, c'est le neveu d'Hippolyte. Bah, comme la plupart de la famille d'Este, il n'a pas été élevé dans les cotons, hein. On a un témoin. Alors d'abord, Louis d'Este se trouve cardinal malgré lui. Il n'avait absolument pas envie d'être cardinal. Il voulait avant tout le métier des armes. Oui. Il avait même prévu de s'échapper de Ferrare, subrepticement, hein, parce que son père n'aurait pas accepté, pour s'enrôler en quelque sorte dans l'armée royale française. Et puis Louis X, il aime bien la vie de cour, enfin bref, les choses se passent mal avec le père, ça se passait mal déjà pendant l'enfance. On dit que le père a balancé son fils dans l'escalier, et qui s'est cassé la figure, depuis ce temps-là il boite. Bon, il n'est pas le seul, hein. Souvenez-vous, Chateaubriand, quand il était petit, il était assis sur une commode et puis il est tombé suite d'une très mauvaise surveillance de sa nounou, en quelque sorte. Hein. Enfin bref, il est très claudiquant et très, très déçu d'avoir manqué, évidemment, le métier des armes, en quelque sorte. Donc le voilà qui se retrouve cardinal et il projette un voyage à Paris. Pour, en gros, découvrir aussi, non seulement, évidemment, les hôtels parisiens, je parle des hôtels des abbés, bien sûr, mais aussi l'abbé de Chailly, éventuellement. Hein. Donc, deux groupes partent pour la France en 1570. Dans la deuxième partie, la dernière, il y a un homme tout à fait remarquable qui fait partie de cette expédition, retardé 11 octobre. Eh bien, c'est sûrement un des plus grands poètes de la Renaissance en Europe. Il s'agit de Torquato Tasso, que nous connaissons en France sous le nom de...
Le Tasse.
Il faisait partie, donc, de ce voyage. La deuxième expédition arrive à Paris le 15 novembre. Et on répartit l'équipe dans des chambres qui sont louées, rue Saint-André-des-Arts, rue Saint-Jacques, vous voyez, la région. Le Tasse occupe une chambre en commun avec un certain docteur Castello, mais aussi avec un théologien. Ils sont logés par une dame qui s'appelle Bastone Belle. Il reste jusqu'au 19 décembre. Et ce jour-là, probablement par économie, et à cause du retard du cardinal qui n'est toujours pas là, hein, les Italiens sont vivement demandés pour quitter les lieux parisiens et de se rendre à l'abbaye de Chailly. Pourquoi ? Bah, tout simplement, ça coûte cher à Paris. Déjà oui. À cette époque. Et le neveu se dit, soit moi, soit tonton, n'est-ce pas, en quelque sorte, à une abbaye. Et il recommande évidemment à cette expédition de prendre illico, armes et bagages. Et toute la troupe va quitter Paris pour aller à Chailly. Ça coûtera beaucoup moins cher au cardinal. Alors, on connaît les noms. On sait combien il y avait de mules, combien il y avait de serviteurs, etc. On sait que le cardinal va rester en France jusqu'en... mai 1572, il visita plusieurs fois Chailly, mais on n'a aucune trace à Chailly de son séjour. Par contre, évidemment, c'est la personnalité que je viens d'évoquer va marquer les lieux, et tous ceux qui, par la suite, vont venir à Chailly vont évidemment parler de la présence du Tasse. Court séjour, ça c'est vrai, hein. Certains disent que quand il est à Chailly, il a composé le début de la Jérusalem délivrée, grand livre évidemment du Tasse, qui a été un best-seller européen de l'époque. Et puis un autre écrivain, non moins célèbre, que j'évoquais tout à l'heure, Chateaubriand. Lui, il écrit, lors d'une visite à Ferrare en 1833, qu'il se rappelait parfaitement que le Tasse était venu à Chailly. Et voilà ce qu'il dit exactement. Le Tasse composa quelques vers de sa Jérusalem dans une abbaye d'hommes dont le cardinal Hippolyte était pourvu. C'était à Chailly, près d'Ermenonville, où devait rêver et mourir Jean-Jacques Rousseau. Il s'agit là donc d'un extrait de Chateaubriand.
C'était « Si Chailly m'était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chailly.